Bonsoir à tous. Le Gard placé en vigilance rouge intempérie après des pluies diluviennes. Une crue majeure est en cours dans la rivière du Gardon. Une personne est portée disparue. Une deuxième vague d'intempéries est annoncée pour ce soir. La progression de l'épidémie de coronavirus, l'Indre-et-Loire annonce la fin des soirées étudiantes à partir de lundi. À Paris, les hôpitaux se préparent à réactiver le plan blanc. Fin de campagne présidentielle bousculée aux États-Unis après la mort de la doyenne de la Cour suprême. Donald Trump veut remplacer la juge au plus vite. Le Tour de France avec une étape pleine de rebondissements lors du contre-la-montre individuel. Tadej Pogacar, nouveau maillot jaune. Une étape incroyable, Fanny Lechevestrier.
Ah oui, on n'en avait pas vécu pareil retournement de situation depuis 2011 et la victoire de Cadel Evans, un scénario dont on rêvait depuis qu'on avait bouclé le tracé, nous dira tout à l'heure Christian Prudhomme.
On se retrouve, Fanny, dans une dizaine de minutes. Notre rendez-vous comme tous les samedis soirs avec Christine Siméon et Ma Vie Connectée. Le temps pour demain, encore des orages. Jean-Michel Golinski est la fin de ce journal.
France Inter.
L'eau est montée de 6 mètres en 2 heures dans le Gard. Le département est placé en vigilance rouge aux pluies, inondations et aux crues. La commune d'Anduze a été particulièrement touchée par les inondations avec l'image spectaculaire d'un camion emporté par les eaux du Gardon. À Anduze notamment, toute la partie basse de la ville a dû être évacuée. Benjamin Duine travaillait derrière son bar lorsque la crue, la vague, a inondé le centre-ville.
On a commencé le service à midi. Et à partir de midi 10, la police municipale est venue nous informer comme quoi la rivière montait et qu'il y avait une vague d'eau qui venait de Saint-Jean-du-Gard et qui allait inonder Anduze. Et à partir de ce moment-là, nous ont invité à fermer l'établissement. Nous, on a vu l'eau monter à une vitesse assez impressionnante. Tous les parkings ont été évacués pour empêcher que les voitures se noient. Il y a un camion qui est passé apparemment qui était dans l'eau, qui a traversé le pont submersible. À Anduze, il y a des appartements et des restaurants qui ont commencé à être inondés.
Une personne est portée disparue dans le Gard. Les habitants sont invités à rester chez eux. Une deuxième vague d'intempéries est annoncée. Didier Loga, préfet du Gard avec Tony Cellier.
Cette zone, effectivement, depuis ce matin, est en grande difficulté. Il y a eu un niveau d'eau considérable, on parle de plus de 500 mm d'eau. On n'est pas loin des records, on est au niveau, pour le moment, des crues de 2014. Mais comme on attend une deuxième vague, je ne sais pas à quel niveau nous finirons, en tout cas un niveau sans doute très élevé. On attend en début de soirée une deuxième vague qui touchera cette fois-ci tout le département. Et en premier lieu, cette petite zone très montagneuse au-dessus du Vigan, qui a déjà été fortement frappée et qui malheureusement va subir, semble-t-il, une deuxième vague assez violente. Donc ça, c'est ce qui nous inquiète énormément pour le moment.
Didier Loga, préfet du Gard, et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, se rendra demain après-midi dans le Gard. Rebond, seconde vague de l'épidémie, en tout cas pour faire face à la nouvelle crise sanitaire qui s'annonce. Plusieurs régions ou villes prennent des mesures de restriction après Nice et Toulouse. Le département d'Indre-et-Loire annonce qu'à partir de lundi, les soirées dansantes, les pots et cocktails seront interdits. L'Indre-et-Loire a été classé en zone rouge, zone de circulation active du virus. En Île-de-France notamment, on se prépare, comme en mars dernier, à réactiver le plan blanc dans les hôpitaux. Sébastien Sabiron a joint Aurélien Rousseau, directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France.
Aujourd'hui, on a vérifié que tout soit bien activé dans le plan qui s'appelle Hôpital en tension, qui consiste à vérifier que les cellules de crise soient organisées, à vérifier que les listes de rappel du personnel soient calées. Aujourd'hui, on a à peu près 20% des lits de réanimation qui sont occupés par des personnes Covid. Donc, on est très loin des chiffres de mars. Mais en même temps, on ne pourra pas déprogrammer des activités chirurgicales comme on l'a fait en mars. Donc, dès un chiffre de 25%, sans doute, on sera en très forte tension. Et ces chiffres augmentent tous les jours. Donc, c'est pour ça qu'on se prépare à cette situation-là. Et c'est pour ça que l'on dit à nos concitoyens, vous avez entre les mains le fait de pouvoir éviter cet impact-là avec le fait de réduire les rassemblements familiaux ou amicaux qui sont aujourd'hui une des sources principales de clusters.
Aurélien Rousseau, le directeur général de l'ARS avec Sébastien Sabiron. En Israël, de nouvelles mesures beaucoup plus fortes ont été prises puisque le pays est à nouveau confiné à partir d'aujourd'hui et pour au moins 3 semaines. Depuis ce matin, les gens ne peuvent plus aller au-delà d'un kilomètre de leur domicile, sauf pour faire des courses alimentaires ou aller chez le médecin. Israël sous confinement alors que Rosh Hashana, le nouvel an juif, débute ce soir. Notre correspondant Frédéric Mettezo a sillonné Jérusalem Est et Ouest reconfiné. Reportage.
À Jérusalem-Est, la partie majoritairement arabe de la ville, le samedi est l'équivalent du lundi en France, en temps normal. Mais les voitures sont moins nombreuses que d'habitude. Cafés, restaurants, fleuristes, coiffeurs sont fermés. On n'entend plus les enfants aller et sortir des écoles. Ahmad, le loueur de voitures, se désole de voir son quartier à l'arrêt.
Tout est fermé. Les affaires ne vont pas mal, elles vont très très mal. Et les aides du gouvernement, c'est zéro.
Abbas, le restaurateur voisin, a mis ses 25 employés au chômage. Lui regrette le manque d'informations.
Personne ne sait rien sur le corona. Tout le monde croit savoir, mais personne ne nous donne les vraies solutions.
Dans Jérusalem, les barrages de police sont partout. C'est la partie ouest de la ville. Les juifs se reposent pour Shabbat et fêtent Rosh Hashanah, la nouvelle année. Rosie ne croit pas que les Israéliens vont respecter le confinement.
Les Israéliens adorent être tous ensemble. Donc l'idée de distanciation physique et l'idée de ne pas se retrouver en famille, ça n'existe pas.
Le Premier ministre Netanyahou a déjà menacé de prolonger le confinement si la situation ne s'améliore pas. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Et puis cette information qui intéresse les motards et les conducteurs de deux roues, il ne sera plus obligatoire de porter un masque de protection sous le casque intégral à Paris. Le tribunal administratif donne raison à la Fédération des motards en colère. Le préfet de police de Paris va donc devoir modifier son arrêté. Aux États-Unis, la mort de la doyenne de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, électrise la campagne pour la présidentielle. L'enjeu de son remplacement est au cœur de cette campagne et du combat entre Donald Trump et Joe Biden à 6 semaines de l'élection. La bataille pour sa succession est lancée et Donald Trump évoque une nomination sans délai d'un nouveau juge à la Cour suprême. De son côté, l'opposition démocrate demande à Trump de ne pas faire cela, de ne rien faire avant la présidentielle du 3 novembre. Loïc Loury à New York pour France Inter.
Nommer un juge à la Cour suprême est la décision la plus importante pour laquelle un président est élu. Nous avons cette obligation sans délai. Sur Twitter, Donald Trump confirme les pires craintes des démocrates. Il compte bien remplacer Ruth Bader Ginsburg au pas de charge. Dès hier, le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, assurait qu'il validerait le choix du président. C'est une promesse de campagne et l'assurance d'avoir une Cour suprême très conservatrice pour longtemps. Un argument électoral de poids, notamment pour les évangéliques opposés à l'avortement. Mais les démocrates, eux, dénoncent l'hypocrisie de leurs adversaires, car ce même McConnell, en 2016, avait refusé d'auditionner un juge choisi par Barack Obama en pleine année électorale. Son parti, cette fois, ne s'encombre pas avec les convenances. Tout, pour autant, n'est pas perdu pour les démocrates, car si les républicains ont bien la majorité au Sénat, certains élus modérés en difficulté pour leur réélection pourraient faire défection. La bataille politique a déjà commencé. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et Emmanuel Macron a rendu hommage ce matin à la juge Ruth Bader Ginsburg en saluant la disparition d'une femme d'exception. Les journées du patrimoine en période de coronavirus. Ces journées du patrimoine ont été annulées dans plusieurs grandes villes où circule le virus, comme Marseille, Nice ou Bordeaux. Mais à Paris, le Premier ministre Jean Castex a lui-même fait visiter l'hôtel Matignon. Jean Castex, Premier ministre et guide.
Bonjour, messieurs, dames, et bienvenue. Voilà, je vais essayer de vous guider dans cette visite à Matignon. On y va ? Allez. On va attendre que tout le monde soit là. Est-ce que c'est le monsieur avec le béret qui clôture le... C'est bon ? Non, mais vous pourriez avoir ce rôle, parce que je vous repère facilement. Et j'ajoute que ça m'est très sympathique. Voilà, vous comprendrez pourquoi. Je ne suis ici que locataire et depuis peu de temps, mais... expliquerai un peu la fonction et la façon dont marche Matignon. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que, avant d'être ici, j'étais maire dans ma commune. Et pendant 12 ans, je n'ai jamais manqué les journées du patrimoine.
Voilà, et 2000 visiteurs sont attendus aujourd'hui et demain à Matignon contre 7000 l'an dernier. Le Tour de France et cette étape incroyable entre Lure et la planche des belles filles. Le maillot jaune change d'épaule slovène. Tadej Pogacar remporte l'étape et prend le maillot à son compatriote Primoz Roglic à la veille de l'arrivée sur les champs demain. En direct sur la route du Tour, on retrouve donc comme promis Fanny Lechevestrier. Rebonsoir Fanny.
Rebonsoir Fred.
Et une 20e étape pleine de rebondissements avec sans doute le premier Slovène vainqueur du Tour.
Mais oui, et quel contraste. D'un côté, le visage poupon à peine marqué de Tadej Pogacar sur le podium du Tour de France. Lui qui venait de survoler la montée de la planche des belles filles. On était dans sa roue, en moto, dans les derniers kilomètres. Et la vitesse à laquelle il est monté était tout simplement hallucinant. De l'autre, celui rougi, les yeux hagards, la bave aux lèvres de Primoz Roglic. Franchissons la ligne, Pogacar, 21 ans, peinait lui-même à croire à ce retournement de situation.
I don't know what to say.
Oui, je sais pas quoi dire. En fait, je sais pas comment j'ai fait, mais je suis très fier de moi. L'équipe, c'est juste un rêve. Je rêvais de ce maillot jaune depuis le début. On l'a fait, c'est fantastique.
Il y en a un qui, en revanche, en rêvait secrètement de ce retournement de situation depuis octobre dernier, depuis que le tracé avait été dévoilé avec ce contre-la-montre en montagne placé la veille de l'arrivée à Paris. C'est le patron du Tour, Christian Prudhomme.
Là, il y a eu l'émotion dont on avait rêvé en traçant le parcours. Et il y a une émotion très forte, même s'il n'y avait pas de Français dans le coup. Ce coup de maître d'un coureur qui a 21 ans jusqu'à après-demain, il aura 22 ans le lundi, c'est quelque chose de fort.
Quelque chose de fort, et pendant ce temps-là, un gros glitch faisait consoler au pied du podium par sa femme et son petit bébé. Frédéric, cela fait 9 ans qu'il n'y avait pas eu un tel retournement de situation. Le précédent, c'était en 2011, Cadel Evans qui avait ravi le maillot jaune à Andy Schleck la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées.
Merci Fanny Le Chevestrier, on suivra la dernière étape avec vous avec beaucoup d'intérêt. Merci Fanny, à demain. Et comme tous les samedis soirs, on a rendez-vous avec Christine Siméon pour Ma Vie Connectée. On va parler ce soir de télétravail et de possible surveillance à distance des salariés. Qu'est-ce que les employeurs ont le droit de faire ou pas? Bonsoir Christine.
Bonsoir Frédéric.
Toutes ces questions, vous les avez posées à la CNIL.
Oui, car le confinement a beaucoup favorisé le télétravail, ça on le sait, mais il a aussi beaucoup inquiété certains employeurs. L'éloignement physique de leurs salariés les a parfois incités à les surveiller de plus près, si je puis dire. Alors la CNIL n'a pas noté forcément beaucoup plus d'alertes ou de plaintes de la part des salariés en 2020, pas pour l'instant en tout cas, mais il lui a fallu rappeler à quelques entreprises les règles fondamentales. Écoutez ce que dit Thomas Dautieux, responsable de ces questions à la Commission nationale informatique et liberté.
Alors, un employeur a le droit de contrôler l'activité de ses salariés, que ce soit par exemple sur le volume, les horaires de travail, à partir de quand je me connecte et quand est-ce que je me déconnecte, et évidemment sur la qualité des travaux qui sont réalisés.
L'important, c'est que la surveillance soit annoncée à l'avance.
Oui, les salariés doivent savoir précisément quelles données sont collectées les concernant et à quelle fin. La surveillance doit être proportionnée, en fait. Pour surveiller l'activité à distance, il existe de nombreux logiciels espions, donc on doit être prévenu quand ils sont actionnés. Voici un exemple avec Thomas Dautieux toujours.
Nous avons reçu quelques plaintes, notamment des employés qui se plaignaient de l'installation d'un dispositif qui faisait des copies écran de leur activité toutes les 10 minutes. Ces logiciels aboutissaient à une surveillance excessive des salariés concernés.
Alors Christine, pas de capture d'écran donc, quels sont les autres interdits pour les employeurs?
Alors les autres interdits, ça peut être les contrôles des frappes sur le clavier, car il y a aussi des logiciels pour ça, les surveillances par webcam interposée relève de la surveillance excessive. Et là, si elle est saisie, la CNIL peut mettre en demeure les employeurs ou bien infliger des amendes. L'important, précise la CNIL, c'est le respect de la vie privée des salariés.
Il ne faut pas que le télétravail aboutisse paradoxalement à une diminution de la vie privée des salariés, notamment parce que certains d'entre eux travaillent donc depuis leur domicile et sur parfois leurs outils personnels. Donc il y a des garanties à apporter de façon à ce que le télétravail ne nuise pas à la vie privée des salariés.
Voilà, et au-delà des mises en demeure, la CNIL peut infliger des amendes qui peuvent aller à jusqu'à plusieurs millions d'euros pour les plus grandes entreprises.
Merci Christine Siméon, Ma Vie Connectée. Tous les détails sur franceinter.fr. Avant la météo, nous venons d'avoir les chiffres de la progression de l'épidémie de coronavirus. La France a enregistré aujourd'hui un nouveau record des cas de contamination avec 13 498 nouveaux cas diagnostiqués ces dernières 24 heures. La météo pour demain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, plus que jamais, devenez acteur de votre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Jean-Michel Golinski de Météo France.
Après les fortes pluies d'orages ce samedi, en particulier sur le relief languedocien, l'épisode Cévenol va prendre fin en cours de nuit. La forte instabilité va se déplacer pour quelques heures en fin de nuit vers la région PACA. Il est donc impératif de surveiller la carte de vigilance avant tout déplacement sur toutes ces régions méditerranéennes entre maintenant et la fin de la nuit prochaine. Notez que le département du Gard est passé en vigilance rouge pour pluie, inondation et crue. Demain, la plupart des régions sera à nouveau concernée par un temps instable et orageux, mais l'activité pluvieuse sera nettement atténuée. Et cette ambiance instable va épargner l'Occitanie, le sud de la Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les régions situées entre l'Allemagne et le nord de la Seine. Dans des températures égales entre le nord et le sud, elles vont afficher une moyenne de 26 degrés sur le pays.